Bonsoir. Situation sécuritaire au Nord Kivu. Les communautés ethniques de cette province demandent au gouvernement congolais d'éviter l'intégration des étrangers, des criminels ou des rebelles au sein des FRDC. Déclaration faite hier mercredi à Goma à l'issue d'une rencontre de sensibilisation des forces vives du Nord Kivu sur le désengagement des fils et filles de cette province des groupes armés. Quelle analyse faire de cette recommandation des communautés ethniques du Nord Kivu? Trois invités participent à cette émission. Rachidi Tumbula, conseiller du gouverneur du Nord Kivu, chargé des questions culturelles. Monsieur le conseiller, bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Kamanzi, député honoraire et notable de la communauté Tutsi au Nord Kivu. Honorable Kamanzi, bonsoir. Honorable
bonsoir,
Kamanzi.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Merci. Maître Joseph Dounia, analyste et avocat, membre de l'association Promotion de la démocratie et protection des droits de l'homme, PDH. Maître Dounia, bonsoir. Voilà, la réalisation me signale que nous allons l'avoir d'un moment à l'autre. Maître Dounia, vous êtes en ligne, vous nous suivez, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Merci à vous tous et bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net.
Les communautés ethniques du Nord Kivu demandent au gouvernement congolais d'éviter l'intégration des étrangers, des criminels ou des rebelles au sein des FRDC. La recommandation a été faite hier mercredi à Goma. C'était à l'issue d'une rencontre de sensibilisation des forces vives du Nord Kivu sur le désengagement des fils et filles de cette province des groupes armés. Le dialogue a été organisé par le Barza intercommunautaire et la société civile du Nord Kivu avec l'appui de la section information public de la MONUSCO, Bernard Nyangi.
Le Nord Kivu vient de passer plus de 20 ans de guerre à connotation ethnique. Une des voies de sortie de cette crise passait par la formation d'une armée capable de protéger l'intégrité du territoire, pensent plus de 200 notables du Nord Kivu qui ont participé à ces dialogues. Ces communautés s'engagent à sensibiliser leurs fils et leurs filles à quitter les groupes armés et mouvements rebelles, mais demandent que le gouvernement ait une rigueur dans la sélection des combattants à intégrer dans l'armée. Guy Kibira, président du conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu.
L'expression des notables se justifie justement par les soucis de les voir avoir une armée forte et capable de défendre l'intégrité du territoire. Sinon, si ils sont filtrés, eh bien, ça ne peut plus protéger la population.
D'autres leaders communautaires pensaient que l'Est de la RDC serait déjà sorti de ce cycle de violence si le gouvernement avait la volonté. Emmanuel Kamanzi de la communauté Tutsi.
On aurait dû terminer cette guerre bien avant, mais il n'y a pas de volonté politique parmi les acteurs. C'est surtout ça.
Pour la MONUSCO, cette rencontre était aussi organisée dans le cadre des activités commémorative de la journée mondiale des casques bleus. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Merci Bernardin Nyangi. Rachidi Tumbula, je rappelle que vous êtes conseiller du gouverneur du Nord Kivu, chargé des questions culturelles. Monsieur le conseiller, comment avez-vous reçu ce dialogue organisé par le Barza intercommunautaire et la société civile du Nord Kivu?
Bien, merci. Je tiens d'abord à remercier Radio Okapi pour l'honneur de cette invitation. Je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs, l'honorable Kamanzi et Dunia Rouyenzi, avec lesquels, j'imagine, nous allons faire de débats constructifs pour l'intérêt de notre province en particulier et l'intérêt de notre pays en général. Après cela, nous revenons sur le débat d'hier. Nous considérons que les communautés du Nord Kivu ont posé un diagnostic. Mais nous sommes convaincus que le diagnostic doit aider le médecin à identifier la vraie maladie. Malheureusement, nous avons constaté depuis 20 ans, avec les guerres récurrentes, que les mauvaises questions que nous avons posées nous ont toujours amené à des mauvaises réponses Et ça, ça a fait que, en fait, les guerres étaient devenues récurrentes. Nous revenons au niveau de l'histoire. En 1993, puisque je ne suis pas allé plus loin, si nous pouvions commencer en 1964, lors de la constitution de l'Oulabou, où a été définie la constitution, la loi sur la nationalité congolaise, puisque tout parle de là, en définitive. Alors, cette constitution a été attaquée en 1972 par une loi organisée par le directeur du cabinet du préfet maréchal Mobutu, du Sengimana, mais malheureusement, cette loi était péchée contre le principe de la loi. Le principe de la loi qui dit qu'une loi, une bonne loi, ne doit être générale, impersonnelle. Or, cette loi de 72 concernait seulement une communauté de rwandophones. Donc, après cette loi, une autre loi a été refaite en 1981 qui a reconnu la nationalité congolaise d'origine aux seules tribus ayant été sur le territoire du Congo dans les limites de 1885. Et après cela, la conférence nationale souveraine à laquelle on a participé a reconfirmé cette loi et en fait tout est parti de là. Après l'arrivée massive de réfugiés en 1994, en 1996, quand la guerre de l'AFDL a commencé, en fait cette guerre a commencé à ouvrir qui était la guerre des Banyamulenge qui réclamait la nationalité. Elle a été transformée en route évidemment pour des raisons évidentes. De l'usure du pouvoir de Mobutu, mais en fait c'était ça l'origine.
Monsieur le conseiller.
Alors, on a compris en ce moment-là que nous pensions que l'origine de conflit était la nationalité, et en 2006, je crois que vous tous vous êtes des témoins, en 2006 on a donné la nationalité à tous ceux qui voulaient la nationalité, puisqu'il y avait des critères du genre avoir un permis de conduire, etc., tous ceux qui étaient là en 1960.
Bon, Monsieur le conseiller.
Naturellement, 1960, il y avait... Oui.
Alors, est-ce que vous venez de dire que d'après le diagnostic, il y avait des mauvaises questions qui ont été posées, qui ont donné lieu à des mauvaises réponses, et est-ce que vous partagez le point de vue d'après lequel 20 ans de guerre au Nord Kivu, cette guerre est essentiellement à connotation ethnique?
Non. Justement, c'est là où je vous dis qu'on a posé des mauvaises questions. Personnellement, je ne crois pas que les guerres récurrentes du Nord Kivu sont d'origine ethnique. C'est pourquoi j'étais en train de vous retracer brièvement l'histoire. Et quand je vous parle de 1992 avec la conférence nationale, la guerre de 96 en fait avait comme origine la réclamation de la nationalité par la communauté Banyamulenge. Or, cette communauté-là, qui considérait qu'elle était exclue de la congolité, elle a fait la guerre. Après ça, quand on a essayé de refonder la société congolaise, en 2006, on a donné la nationalité à tous les transplantés, à tout le monde en fait. Et on a pensé que le problème était terminé. Mais quand la nationalité était donnée, la guerre a repris avec le RCD. Quand le RCD a commencé, nous avions pensé que ça devenait maintenant un problème de pouvoir, exclusion au pouvoir et au grade militaire. Azarias Soubelo est devenu même un vice-président de la République et tous ont eu des grades de généraux.
Monsieur le conseiller.
Et je crois que nous avions pensé que ça pouvait résoudre le problème, mais Kouna est resté ici général,
Monsieur le conseiller.
Et jusqu'aujourd'hui, M23, etc. Donc, toutes les questions auxquelles on répondait n'étaient pas des bonnes questions. C'est pourquoi, dans ce forum-là, il a fallu qu'on repose des bonnes questions pour définitivement avoir de bonnes réponses.
Alors,
je crois qu'on y arrivera dans le cours du débat.
Voilà, puisqu'on y est déjà, quelles sont ces bonnes questions qui ont donné lieu à des bonnes réponses? Brièvement, je vous en prie.
Bon, moi je vois qu'on a pensé que c'était la nationalité, on a compris que c'était faux. On a pensé que c'était l'exclusion, on a compris que c'était faux. On a pensé que c'était le pouvoir, ils avaient envie d'accéder au pouvoir. Aujourd'hui, tout le pouvoir est politique, etc., et même de grandes entreprises sont entre les mains de beaucoup de gens que nous connaissons, et que ce n'était pas la solution au problème. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les M23 étaient les chefs des régiments. sur les 23 ou 24 régiments qu'on a fabriqués, il gérait à peu près 19 régiments. Donc, c'était pas ça le problème.
Alors, quel est le problème?
Moi, je reviens maintenant à ce que Sarkozy a dit. Sarkozy a dit, le problème du Congo, c'est que le Congolais doivent apprendre à partager leurs richesses et leur espace.
Merci.
C'est le problème auquel je ne sais pas s'il y a des Congolais qui seront prêts à accéder. Mais bon, enfin, on va essayer de débattre pour voir ce que tout le monde pense de ça. Puisque les gens ont pensé qu'il y aurait la solution du type Soudan ou du type...
Merci, monsieur le conseiller.
Mali, etc. Merci. Mais malheureusement, je pense que chez nous, ça ne peut pas coller puisque les
prédispositions
psychologiques ne sont pas les mêmes.
Merci, monsieur le conseiller. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Honorable Emmanuel Kamanzi, vous êtes député honoraire et notable de la communauté Tutsi au Nord Kivu. Comment vous avez reçu l'organisation de ce dialogue? Vous venez de suivre le conseiller Rachidi Tumbula qui dit qu'on avait posé des mauvaises questions qui ont donné lieu à des mauvaises réponses. Mais le vrai problème, c'est le partage de la richesse et de l'espace de la RDC. Honorable Kamanzi? Voilà, je pense que nous venons de perdre l'honorable Kamanzi. La réalisation va tenter de le retrouver. Maître Joseph Dounia, est-ce que vous nous suivez? Vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Je rappelle que vous êtes analyste et avocat, membre de l'association Promotion de la démocratie et protection des droits de l'homme, PDH. Vous venez de suivre le conseiller Rachidi Tumbula. Comment vous avez reçu l'organisation de ce dialogue?
L'organisation de ce dialogue était très intéressante. Cependant, je relève que il ne fallait pas rester figé sur des façons peu réalistes dans la mesure où on peut considérer que le fait que le gouvernement congolais ait reconnu tous ces groupes armés, il les a transformés en partenaires politico-militaires et que donc refuser l'intégration de ces groupes armés, c'est un peu irréaliste dans la mesure où le gouvernement est déjà en pourparlers avec ces gens. En dehors de la limitation du fait d'être criminel de guerre ou génocidaire ou criminel contre l'humanité, je pense que c'est plus prudent d'accepter l'intégration de ces groupes parce que on sait que depuis qu'on a commencé la politique de démobilisation, de désarmement et la réintégration, cette politique a échoué au Congo. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir pourquoi ces groupes armés continuent à être créés, des guerres cycliques. Donc, il faut rechercher les causes aussi au niveau de la gestion du pouvoir public, au niveau du partage des pouvoirs. Et cela fait que chaque politicien peut former ses groupes et peut alimenter des groupes armés. Vous savez qu'aujourd'hui, ici au Kivu, on parle des groupes armés hostiles au gouvernement. Il y a aussi des groupes armés qu'on considère comme pro-FRDC. Et donc, lorsque la chaîne de distribution de ces armes, tant qu'on ne peut pas les suivre, il est difficile de pouvoir refuser la réintégration des groupes armés. Et pourtant, ces groupes armés, les FARDC ne peuvent pas les venir au bout. Donc, il est impossible. Et c'est dommage que certains de la société civile aient une mentalité extravertie de croire que la brigade viendra régler les problèmes du Congo. Et pourtant, on a vu dans beaucoup de pays, partout où les Nations Unies sont allées, et s'il n'y a pas d'intérêt, on ne peut pas se tromper en disant que les Tanzaniens, les Sud-Africains ou les Malawites viendront régler le problème à notre place. Et je crois que c'est pour cela qu'il y a lieu de privilégier des solutions réalistes, des solutions locales qui permettent de mettre effectivement fin au conflit, mais il faut aussi une volonté politique au niveau de Kinshasa, et au niveau local, parce qu'on a l'impression qu'il s'agit des groupes armés entretenus, des conflits entretenus et pour des raisons politiques.
Maître, vous soutenez l'intégration des groupes armés dans l'armée nationale et donc vous pensez que la recommandation des communautés ethniques du Nord Kivu qui demande au gouvernement d'éviter l'intégration des étrangers, des criminels ou des rebelles au sein des FARDC, c'est une façon de refuser de voir la réalité en face?
Oui, je pense que c'est très simpliste. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas intégrer les criminels de guerre. Donc, il s'agit de limitation du droit international qui empêchent que les criminels puissent avoir des avantages ou des faveurs alors qu'ils ont commis des crimes graves. Mais s'agissant des rebelles, je crois que là, on ne pourrait pas refuser l'intégration tant qu'ils n'ont pas commis des crimes graves ou qu'ils ne sont pas étrangers. Ce serait irréaliste. Parce qu'il faut considérer que l'échec des DDR au Congo, c'était seulement une mauvaise gestion. Si cette question avait été bien gérée, que les fonds n'ont pas été détournés, qu'il n'y aurait pas eu de corruption, je pense qu'aujourd'hui, dans les milieux comme Massis, dans les milieux reculés, si on avait trouvé des emplois pour tous ces groupes armés, tous ces jeunes qui sont désœuvrés, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas à ce niveau-là. Mais il faut relever aussi que ces groupes armés étrangers, ce n'est pas une question qui peut être réglée seulement par le Congo. Nous avons toujours soutenu qu'il faut une tripartite, une quadripartite entre l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Congo. Parce que vous savez que tous ces déversements des réfugiés rwandais en 1994 a entraîné qu'il y ait des conflits toutes qui ont été exportés aussi sur la partie congolaise. Aussi les conflits entre l'Ouganda, entre les groupes armés ougandais contre le gouvernement ougandais. C'est une question qui ne peut pas être résolue par les Congolais eux-mêmes sans l'Ouganda et sans la communauté internationale. Et donc les Congolais ne peuvent pas se tromper en croyant que seulement les étrangers, la brigade internationale pourrait être la solution sur les groupes armés congolais. Mais il y a aussi cette question des groupes armés étrangers que les FARDC ne peuvent pas neutraliser. Il faut voir la vérité en face.
Maître, les communautés ethniques se sont engagées à sensibiliser à l'issue de ce dialogue, à sensibiliser leurs fils et filles à quitter les groupes armés et mouvements rebelles. On se souvient que ce n'est pas la première fois. Les communautés ont-elles failli dans cet engagement?
Je pense que l'idée est très intéressante, mais il faut être réaliste dans la mesure où on sait que à la base de ces groupes armés, il y a pas mal de questions comme les questions récurrentes des conflits de terres. Vous savez que cette question des conflits de terres a des implications sur la question des nationalités, cette question a des implications sur la cohabitation, cette question a des implications sur la sécurité et même sur la question politique, dans la mesure où on sait qu'au niveau des dirigeants, des leaders politiques des communautés, il y en a qui alimentent ces groupes armés d'une façon ou d'une autre, et que donc, croire que cette sensibilisation peut donner une solution, je suis d'accord, mais je crois que ce n'est pas réaliste, ce n'est pas, ça prendrait beaucoup de temps, alors que s'il y a une bonne gestion de la politique de désarmement, de la démobilisation et de la réintégration, donc que le gouvernement accepte de créer des emplois, que le gouvernement ouvre des espaces politiques, parce que, s'agit de l'opposition ou du gouvernement, et il ne faut pas se voiler de face, qu'il y a des leaders qui alimentent les groupes armés, et donc ce sont des pions politiques qui sont utilisés par la création des groupes armés, les milices, et les armes qui sont fournies. Vous ne pouvez pas comprendre comment ces groupes armés congolais, ces groupes armés étrangers sont alimentés en armes. Et donc il s'agit des groupes armés qui sont alimentés au niveau interne et au niveau extérieur. Donc il faut bien comprendre ces deux dimensions congolais au niveau du Kivu et les dimensions régionales entre les États voisins qui ont des comptes à régler avec les groupes armés.
Merci maître. Honorable Emmanuel Kamanzi, est-ce que vous êtes en ligne? Vous nous suivez? Honorable Kamanzi? Voilà, décidément nous avons quelques soucis avec la ligne de l'honorable Kamanzi. Monsieur le conseiller Rachidi, est-ce que vous nous suivez? Monsieur le conseiller Rachidi Toumboula? Voilà, nous avons également perdu le conseiller Rachidi Toumboula, qui, je rappelle, est conseiller du gouverneur du Nord Kivu, chargé des questions culturelles. Maître Joseph Dounia, est-ce que vous êtes toujours en ligne?
Oui, tout à fait, je suis en ligne.
Voilà, il y a Komanda qui nous écrit de Kindu au Maniema qui dit « La déclaration des communautés du Nord Kivu est tardive car les FRDC seraient infiltrés par les étrangers depuis longtemps. »
Oui, je pense que c'est vrai, c'est tardif, mais aussi c'est pas très pratique, c'est pas réaliste. Il s'agit en principe d'une déclaration qui est faite sur les choses connues de tous, que l'armée est infiltrée, que l'armée contient des criminels. Et donc, dans la mesure où ces criminels sont des partenaires du pouvoir actuel, je crois que ce n'est pas bien voir les choses. C'est avoir une vision qui n'est pas vraie, parce que jusqu'au mois où le Goma a été pris par les M23, on a vu que beaucoup de responsables des M23 étaient choyés par le gouvernement, c'était des intouchables. Et donc je crois que c'est en retard que les communautés intercommunautaires, les communautés du Nord Kivu puissent faire cette déclaration. Nous croyons que c'est en retard et c'est irréaliste. Je crois que la question, c'est de voir que peuvent devenir ces groupes, ces milices qui se battent. Il y a plus de ces 4 groupes armés. Il y a les 3 groupes armés, ougandais, rwandais et burundais. Par contre, il faut savoir comment on peut conditionner ces groupes armés à quitter la vie militaire. Merci. De sorte qu'ils puissent servir à autre chose.
Monsieur le conseiller Rachidi Toumboula, est-ce que vous êtes de nouveau en ligne?
Oui, je suis en ligne. Merci
beaucoup. Quelle perception vous avez de cette recommandation des communautés ethniques du Nord Kivu qui demande au gouvernement congolais d'éviter l'intégration des étrangers, des criminels ou des rebelles au sein des FRDC? Tout à l'heure, Maître Joseph Douni a lui pensé que le gouvernement devrait plutôt accepter l'intégration des groupes armés dans l'armée régulière.
Bon, je suis... Vous savez... Dans des approches d'analyse statistique, il y a ce qu'on appelle des biais, c'est-à-dire une analyse biaisée. En 1996 ou 97, quand Kabila père a pris le pouvoir à Kinshasa, il y avait tous les groupes armés qui sont entrés dans l'armée et ça ne les a pas empêchés de recommencer la guerre en 98. Et ils ont continué à faire les mêmes exactions et en 2001, ils ont refait la même chose. En 2008, ils ont fait la même chose. Et que donc, je crois qu'il est temps que on essaye de faire un petit tri objectif. Cependant, ce tri-là est assez complexe parce que, bon, je suis en train d'observer une logique physique. Quand l'appareil est en train de mesurer une quantité donnée, l'appareil lui-même ne peut pas être assez objectif pour bien voir la réalité de l'objet à mesurer. Je crois que je me fais comprendre.
Merci, monsieur le conseiller. Je vous redonne la parole tout à l'heure pour nous expliquer dans les détails cette perception physique dont vous parlez. La réalisation me signale que l'honorable Kamanzi est en ligne. Honorable, vous nous suivez?
Oui, je suis en train de vous suivre, s'il vous plaît.
Je vous prie d'éteindre... Je vous prie d'éteindre la radio qui est à vos côtés ou de vous en éloigner pour éviter le retour que nous avons à l'antenne. Vous pouvez nous suivre sur votre téléphone.
Merci. C'est plus que la communication est si difficile. Hein?
Vraiment. Alors, honorable, donc je vous prie, comme nous le disons, de vous éloigner un tout petit peu de votre poste radio. Je crois que c'est fait. Alors, honorable, je rappelle que vous êtes député national honoraire et notable de la communauté Tutsi au Nord Kivu. Qu'est-ce que vous pensez quand les communautés disent que le gouvernement doit éviter l'intégration des étrangers, des criminels ou des rebelles au sein des FRDC? Maître Douni a dit tout à l'heure que ce n'était pas réel. Que vous ne voyez pas la réalité en face.
Oui, écoutez, une chose, si on doit éviter d'intégrer les rebelles, alors que deviendront ces rebelles? Donc ils vont se camper sur leur position. Il faut leur offrir une possibilité de pouvoir intégrer l'armée. Quant à la question des criminels, je suis d'accord, il faut identifier les criminels, il faut identifier les étrangers. Et les étrangers, les criminels doivent être conduits à la justice, les étrangers ne doivent pas faire partie de notre armée s'il y en a parmi les rebelles.
Alors, honorable, vous avez déclaré dans le reportage que notre confrère Bernardin Nyangui a diffusé en début de cette émission, vous avez déclaré qu'on aurait pu terminer cette guerre bien avant, mais il n'y a pas de volonté politique parmi les acteurs, c'est surtout ça. Cette volonté politique, est-ce de la part des autorités, de la communauté internationale ou des groupes armés?
Non, je dois d'abord vous préciser à titre de rappel que je suis acteur politique de notre pays depuis plus de 20 ans.
Donc je suis la situation du tas avant l'AFDEL, pendant l'AFDEL, pendant la RCD jusqu'à aujourd'hui. Donc moi je situe les problèmes au niveau du manque de volonté des dirigeants, de nos dirigeants, donc des animateurs politiques de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est en gros ça. Puisque si ces gouvernements, si nos animateurs respectaient les engagements pris avec les partis, s'ils respectaient les textes, je crois qu'aujourd'hui on ne serait pas là où on est. À titre de rappel, vous savez qu'il y a eu accord de San City. Si San City avait été respecté pendant la transition comme après la transition, il n'y aurait pas eu, pendant la transition, il n'y aurait pas eu les CNDP. Et après la transition, il n'y aurait pas eu aujourd'hui les M23, puisqu'il y a eu des accords entre les CNDP et le gouvernement qui n'ont pas été respectés, c'est ce qui justifie la naissance des M23. Et donc, il n'y a pas d'autres accords. Moi, je pense que nos dirigeants doivent respecter les accords, c'est d'abord ça. Si on doit sensibiliser nos frères qui sont dans les groupes armés ici et là, on doit aussi sensibiliser le gouvernement au respect des textes, des lois et des engagements pris à tous les niveaux.
Alors, au niveau des communautés, vous vous êtes engagé à sensibiliser vos fils et filles à quitter les groupes armés et les mouvements rebelles, mais ce n'est pas la première fois, et donc, puisque au Nord Kivu, les groupes armés naissent chaque jour, donc vous avez échoué dans votre mission.
Non, je dois vous dire aussi que ceux qui pensent que les communautés doivent mobiliser les enfants qui sont dans les groupes armés, c'est faux. La seule façon de mobiliser ces enfants à revenir dans l'armée régulière, comme dans le gouvernement, ou à déposer les armes, c'est de résoudre les problèmes qu'ils posent. Puisqu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Il y a presque des groupes armés pour chaque communauté. Pourquoi? C'est puisque, en fait, l'État a démissionné de ses fonctions. Si l'État assumait pleinement son rôle de sécuriser tout le peuple, aujourd'hui, il n'y aurait pas ces groupes armés. Et maintenant, en refuge, il y a des proliférations de groupes armés, tel pour protéger sa communauté, tel pour protéger sa communauté. Généralement, c'est ça.
Alors, honorable.
Alors, donc, s'il faut régler ce problème, il faut que l'État assume pleinement ses fonctions régaliennes, assure la sécurité pour tous, et mette en place vraiment la bonne gouvernance pour répondre à toutes les préoccupations de notre population.
Nous allons prendre pour vous, honorable Kamanzi, cette réaction qui nous vient de Kalima au Maniema.
Charles Ingen à Kalima dans la province du Maniema. Cette recommandation tombe presque comme un rappel à l'ordre au gouvernement congolais, comme qui dirait qu'une armée nationale est différente d'une équipe de mercenaires ou un groupe armé au sein duquel le plus criminel sont récompensés par des galons. Nous demandons cette fois-ci à nos dirigeants de faire preuve d'une réelle volonté politique dans la mise en application de la réforme sécuritaire en cours.
Réaction honorable Kamanzi.
Je suis d'accord pour cette réforme politique. C'est tout ce qu'on a toujours demandé. Mais penser que les groupes rebelles sont animés de mercenaires, je ne crois pas. S'il peut y avoir des mercenaires, je ne sais pas, puisque je ne suis pas parmi ces groupes armés. Mais ce qui dit, c'est dire la vérité. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas un rappel à l'ordre au gouvernement. Même si c'est mon droit de le faire, puisque s'il faut dire la vérité au gouvernement pour que le gouvernement puisse corriger. Est-ce que c'est du tort? Je ne pense pas.
Alors, honorable, il y a des auditeurs qui pensent que l'infiltration de l'armée nationale ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi vous en parlez seulement, vous, au niveau des communautés, vous évoquez cette question maintenant, puisque c'est une vieille histoire?
Bon, qui évoque ça? Moi, je ne connais même pas l'infiltration. Je connais qu'il y a des groupes armés étrangers qui sont au Congo, qui viennent des pays voisins. Mais je ne sais pas si notre armée est infiltrée. Et c'est au gouvernement, encore une fois, d'identifier les éléments de son armée et de voir s'il y a des étrangers. S'il y a des étrangers, il faut les refouler. Pourquoi accepter les étrangers? Et parmi ces groupes armés, quand il y aura un mécanisme d'intégration, il faudra aussi identifier s'il y a des étrangers, on les rejette. Mais malheureusement, quand nous sommes dans une première comme celle d'hier, il y a toujours des extrémistes, nos frères extrémistes qui sont ici en province, qui prennent tout le monde d'expression qu'il y a Rwanda comme étranger. Je suis sûr que certains d'entre eux, quand ils veulent parler des étrangers, ils vont même jusqu'à dire ceux qui sont dans les institutions, ils veulent parler des généraux, de nos députés qui sont là. Et ça, c'est le problème d'exclusion que Rachid a évoqué. Donc, il faut l'exclusion, car l'exclusion domine dans un pays, c'est qu'il n'y a pas de mesures précises. Donc l'État aussi doit assumer ses responsabilités de châtier tout le monde qui devient auteur de l'exclusion ou d'une autre antivaleur. Donc c'est ça, à ce niveau, c'est ce que je peux dire.
Merci honorable Kamanzi. Monsieur le conseiller Rachidi Toumboula, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mahagi en province orientale.
assistant Sami Diakonga de Mahagi en province orientale. À mon avis, ces recommandations ne peuvent faire que la communauté internationale change d'avis, car elle a déjà exprimé ouvertement son désir de voir le gouvernement poursuivre les négociations avec le M23. Il faut plutôt demander aux Nations Unies d'accélérer les déploiements de la brigade d'intervention pour neutraliser les forces négatives à l'est du pays, parce qu'il me semble que leurs points de vue ont toujours primé sur les décisions internes.
Réaction, monsieur le conseiller.
Bon, je remercie cet auditeur-là, mais je lui dis que la force de la conviction est au-dessus de toutes les tentations exogènes. C'est-à-dire, on a tenté depuis 1960 à séparer le Congo en voulant imposer des choses. Des gens comme notre héros national Lumumba, qui se battait pour ce pays, a été sauvagement assassiné au Katanga. Il n'est plus, les Occidentaux n'aimaient pas celui qui défendait le Congo. Or, malheureusement, la donne principale du Congolais, c'est que tout le Congolais, sans exception, et je mets quiconque à défi, tient à ce que son pays reste uni. Ce qui n'est pas le cas avec le Soudan, ce qui n'est pas le cas avec le Mali, ce qui n'est pas le cas avec même le Nigeria actuellement, avec les gens de Boko Haram, etc. Ici, tous les Congolais, quand on touche le Katanga, quand on touche n'importe où, tous les Congolais sont prêts à mourir pour son pays. Mais maintenant, pour revenir à l'idée de l'honorable Kamanzi, qui dit qu'il ne croit pas qu'il y ait des infiltrations dans l'armée, mais moi je crois que, bon, il est bon que quelqu'un dorme et rêve, et il rêve d'être bon Dieu. Et le matin, quand il se réveille, il se retrouve sur la terre. Mais moi, je crois que nous tous, nous sommes adultes, vivants et voyants. Moi, je crois qu'il y a des rwandophones du Congo qui ont été retrouvés au Congo à la tracée de frontière est. Ceux-là sont de droit, ont les mêmes droits comme moi, comme tout le monde, comme vous-même au studio là-bas. Mais il y a d'autres qui sont à l'extérieur. Mais ceux qui sont à l'extérieur profitent de la langue pour entrer et faire, nous faire voir qui sont les Congolais. Vous ne pouvez pas trouver aujourd'hui un Congolais, au moins qui ne connaisse pas une des quatre langues du Congo. Celui-là, en tout cas, je m'excuse, il va nous rappeler d'où il est venu, et nous trouverons parmi beaucoup de ses amis-là. Puisque quand on parle d'extrémisme dans ce langage-là, bon, l'extrémisme, c'est par rapport à un centre. Le centre, c'est où?
Merci.
Quand on est extrême par rapport à un centre, mais le centre, on le place où? Le centre, c'est le Congo. Et les gens qui sont à l'extérieur du Congo, je crois que c'est là les extrémistes.
Merci, monsieur le conseiller. Merci, monsieur le conseiller. Maître Joseph Dounia, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Amos Bissima, de la ville de Bukavu, province du sud Kivu. La recommandation des notables du nord Kivu est d'importance capitale si cette fois nos dirigeants vont en tenir compte et éviter les erreurs du passé au cas où ce n'est pas une complicité. On a intégré les criminels, les étrangers au sein de notre armée au nom de la paix que nous n'avons jamais vécu. Vraiment, cet appel vaut son pesant d'or. Malheureusement, c'est un cri lancé dans le désert. La faiblesse de notre armée est due à cette intégration des étrangers gradés à foncer qui l'a trahi sur les lignes de front. Tout cela émane de la réconciliation qui a échoué en RDC car n'ayant pas connu l'étape de la vérité.
Brève réaction, maître Joseph Dounia, avant que l'on aborde la partie des solutions.
Je suis d'accord en partie avec l'auditeur qui réagit, mais je fais voir que la recommandation pourrait créer des conflits qu'il ne résoudrait dans la mesure où la question de nationalité, si on la fait revenir à ce moment précis, je crois que ce serait reculer gravement et ça créerait plus de conflits. Je comprends bien la bonne foi des notables intercommunautaires qui ont proposé cette recommandation, mais je crois que si on revient sur la question de nationalité, ça ferait beaucoup de problèmes. Par contre, s'agissant des criminels de guerre et des étrangers, si ça ne soulève pas des questions de nationalité, je crois que je serai d'accord qu'en partie, on accepte que les criminels de guerre et les étrangers ne soient pas acceptés au sein des FRDC. Mais je relève que la mauvaise gestion de la politique de désarmement, de la démobilisation et de la réintégration est à la base. Je crois que si on revient à cela, on pourrait revenir sur la question des élections, parce que pendant les élections, beaucoup de gens ont eu des cartes. Et aujourd'hui, quand on voit beaucoup de groupes armés congolais ou étrangers, beaucoup des éléments, ils ont beaucoup d'éléments, ils disposent des cartes d'identité, des cartes d'électeur tenant lié à la carte d'identité. Je crois que ça nous fait revenir sur la question de la gestion du pouvoir public, où on sait que pendant les élections, l'une ou l'autre raison, beaucoup de gens ont eu des cartes. Est-ce que on pourrait refuser que ces gens, ils sont pas congolais, sur base de quoi? Est-ce que sur base de morphologie, sur base de langue, sur base de quoi? Je crois que les communautés du Nord Kivu, les communautés du Kivu aussi, devraient faire un effort de ne pas tomber. On voit aussi que dans la façon de conduire l'affaire congolaise au niveau des Nations Unies, il y a aussi beaucoup d'inadaptations qui sont faites. Et malheureusement, beaucoup de Congolais tombent dans les pièges en croyant que cette pièce seulement proposée par les Nations Unies, c'est ça la bonne voie. Et pourtant, il faudrait des solutions locales, solides, qui permettent d'aller au bout, parce que en dehors de la volonté au niveau local, de l'acceptation mutuelle des communautés, il faut aussi qu'il y ait une volonté au niveau national. Parce que lorsqu'on va parler de la démobilisation, de la réintégration, il faut qu'il y ait une volonté au niveau de Kinshasa de pouvoir répondre aux besoins qui peuvent être posés pour que ces groupes armés rebelles, qui ne sont pas criminels de guerre, qui ne sont pas étrangers, comment on va les reconditionner, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je crois que l'honorable Kamanzi a soulevé cette préoccupation. Parce que si les FARDC ne sont pas en mesure de venir à bout de ces groupes armés, est-ce qu'on va seulement demander aux gens de quitter groupes armés qui sont forts, qui sont résistants par rapport aux FARDC? Il suffit seulement de sensibiliser, ils vont accepter de quitter et pourtant ils ont les armes. Je crois qu'il faut aussi régler cette question de la filière des armes qui sont données par des leaders politiques, qui sont données par les pays étrangers qui les fournissent. Donc ce n'est pas une question aussi très simple qu'on peut dire seulement refuser, et pourtant les gens sont forts. On sait que les FARDC n'ont pas réussi à devenir au bout. On sait que même si on amène les casques bleus sous format brigade internationale, il suffit que 3 ou 10 parmi eux tombent, vous allez voir qu'ils vont être retirés, comme on a vu au Rwanda. L'amour de 10 casques bleus belges a entraîné le départ et le génocide. On sait comment ça s'est passé. D'autre part, vous pensez que les militaires congolais, quand ils vont voir, ils vont être au même front avec la brigade, des gens qui sont payés très cher, qui vont toucher entre 5 et 10 000 dollars, ils ne vont pas s'entretenir. Il faut voir la solution de façon réaliste, de sorte qu'on puisse aboutir à un règlement solide.
Alors, Maître Dounia, puisque vous avez la parole, cette solution réaliste et durable qu'il faudrait urgemment proposer, ce serait laquelle d'après vous? Il nous reste moins de 7 minutes. Je vous demanderai d'être bref, je vous en prie.
Oui, je pense que la solution réelle et solide, c'est de renforcer le pourparler avec les groupes, avec les M23, avec tous les autres groupes armés congolais, les Mai Mai, Nyatura et consorts. Il faudrait que tout soit sur la même table, de sorte qu'on puisse mettre fin à cette question de la présence des groupes armés, parce que c'est ça, à mon avis, la question fondamentale qui empêche la paix et la sécurité et le développement à l'est du Congo. D'autre part, au niveau régional, comme a proposé le président tanzanien, je crois qu'il faut qu'il y ait un effort au niveau de la communauté internationale à pouvoir considérer que, par exemple, s'il y a des jeunes Hutus qui n'ont pas été, qui n'ont pas fait partie des génocidaires, il faut considérer qu'il faut trouver des mécanismes politiques de sorte que tous ces gens puissent rentrer chez eux au Rwanda et que la question rwando-rwandaise soit une question qui soit traitée au Rwanda et la question ougando-ougandaise soit une question qui soit traitée en Ouganda. Mais cela exige une contribution et pas des façades comme on voit aujourd'hui.
Merci.
Une solution inadaptée et, à mon avis, une solution qui trompe les Congolais en disant la brigade.
Mais merci. Merci, Maître Dounia. Il nous reste moins de 5 minutes. Je vous redonnerai la parole pour conclure. Honorable Emmanuel Kamanzi, qu'est-ce qu'il faudrait concrètement pour pacifier le Nord Kivu? Il faut l'acceptation mutuelle des communautés. Ça, c'est Maître Dounia qui l'a également souligné. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire en guise de solution pour pacifier cette partie du pays?
C'est-à-dire chacun doit jouer sa part, en commençant par l'État congolais, donc les animateurs politiques, je veux dire, qui doivent respecter leurs engagements. Et c'est un. De deux, il faut privilégier le dialogue comme mode de pacification de la région. Donc il faut dialoguer. faut dialoguer avec tous les acteurs qui prennent les armes. N'en déplaise à ceux qui pensent que non, il faut aller jusqu'au bout avec les armes, comme il y a la communauté internationale qui a accepté d'appuyer les FRDC. Non. Quand ils vont aller combattre, les premières victimes sont les civils, nos sœurs qui seront violées, nos frères, nos villages qui seront détruits. Moi, je ne suis pas pour cet avis. Il faut donc le dialogue. Mais un dialogue qui va conduire à des accords. Et ces accords devront être respectés. Il faut que chaque partie ait la bonne foi de respecter ces accords, de les mettre en application. Sinon, nous risquons de retomber dans les pièges du passé. On signe les accords, on les met dans les tiroirs. Là, ça va encore nous conduire dans une autre situation après quelques années. Ça, c'est un au niveau de l'État. Et je voudrais aussi demander à nos communautés respectives, aux membres de nos communautés, puisque les communautés n'agissent pas, il y a des personnes de ces communautés-là qui agissent, d'être moins extrémistes, de favoriser la cohésion entre les communautés et de pouvoir accompagner l'État dans cette action de pacification de la région. Sinon, si nous restons extrémistes à notre base, l'État va venir, mais n'aura pas de répondant. Là, c'est ce qu'a dit. Et là, ça n'aura pas d'effet. Donc, si je veux parler par exemple de la société civile, qui aujourd'hui, la société civile est devenue un passage, un tremplin, où chacun doit se faire voir pour que demain il fasse partie du gouvernement. Donc, ils sont au service du gouvernement. Non. La société civile, les dirigeants de la société civile doivent être en mesure de dire la vérité au gouvernement, voici ce qui va, voici ce qui ne va pas. C'est cette société civile-là que nous voulons.
Honorable Kamanzi.
Comptez sur les casques bleus. Oui, les casques bleus viendront. Ils peuvent nous accompagner, mais la grande partie, c'est le gouvernement, la grande partie, c'est nous les Congolais. Et donc, il n'y aura pas de solution qui ne passera pas par nous.
Honorable Kamanzi.
La question, c'est de dire, aujourd'hui, ce n'est pas à hésiter, c'est pas, on ne peut pas ne pas le dire à cette occasion. Il y a cette stigmatisation qui continue. On associe la communauté d'expression rwandophone au M23, et maintenant c'est la chasse à l'homme. On ramasse déjà par-ci, par-là, les jeunes déjà surtout, on les assimile au M23. Mais ça c'est dangereux puisque c'est déjà un recrutement en faveur du M23. Ces garçons qui vont sortir des cachots, ils vont aller directement au M23, et on aura renforcé le M23.
C'est honorable Kamanzi.
C'est une bonne chose à faire. Il faut enquêter. Je ne dis pas que l'État ne doit pas faire son travail, mais il doit le faire correctement.
Merci, honorable Kamanzi. Maître Joseph Dounia, visiblement, les communautés n'ont aucune influence sur leurs fils et filles qui ont pris les armes, en guise de conclusion.
Je suis d'accord que les communautés n'ont pas d'influence sur les groupes armés. Et la preuve, c'est que, par contre, chaque communauté voudrait que sa milice ou bien son groupe armé puisse combattre fort, parce qu'il y a des incidences sur, par exemple, des conflits de terre. Il y a des gens qui voudraient que ce soit leur leader qui puisse émerger, et sur base de ça, il peut faire des marchandages politiques à Kinshasa, en faisant part au pouvoir, au régime en place, que je représente, c'est moi qui ai l'influence sur le groupe armé.
Merci. Merci, Maître Dounia. Monsieur le conseiller Rachidi Toumboula, justement, en guise de conclusion.
Bon, je crois que les recommandations des communautés sont fondamentales. On ne peut pas empêcher au Congo, comme les autres pays, d'identifier des étrangers dans son territoire. Je crois que ça, c'est un devoir légitime d'un État souverain.
Merci.
Ça, c'est un. Deux, on ne peut pas demander aux Congolais d'intégrer des criminels dans les forces armées. Et trois, je tiens à dire à l'ensemble de nos co-débatteurs que il ne faut pas toujours traiter l'autre d'extrémiste.
Merci, merci Monsieur le conseiller. Fin de cette émission. Réalisation Kevin Kouté, Samuel Kachak. Supervision Pélé Kipela Mondo. Mise en onde Willem Lungamba. Coordination et présentation Alain Rong Mouchige. Vous nous avez suivis. Nous vous disons merci. Au revoir.